Vivre avec. Témoignage et décryptage, un podcast réalisé par le groupe Ma Santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre avec, le podcast où la santé et le bien-être des jeunes sont au cœur de la discussion. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Au-delà du couple qui se sépare, c'est toute une famille qui est chamboulée. Et au milieu de tout ça, se trouvent souvent les enfants, victimes collatérales de ces unions qui ne sont plus. Même si chaque situation est différente et que certains enfants s'acclimatent très bien à cette situation, beaucoup restent impactés. C'est ce que montre un rapport de recherche du ministre de la Justice du Québec à ce sujet. L'étude montre que le divorce a des effets négatifs sur le bien-être des enfants ainsi que plus tard dans leur vie d'adulte. On constate, par exemple, qu'ils sont plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs et anxieux que les enfants issus de familles unies. Alors, pour en savoir un peu plus, Marie Costa, coach parentale, va nous parler des conséquences de la séparation des parents sur le bien-être des enfants et nous donner ses conseils pour reconstruire une relation. Mais tout d'abord, plongeons-nous dans le récit de Joris, qui, à l'âge de 12 ans, s'est retrouvé dans une bataille qui n'était pas la sienne. Il nous raconte. Vivre avec des parents séparés, un épisode de Ma Santé, réalisé par Fiona Guattieri. Bonjour Joris.
Bonjour.
Merci beaucoup de t'être rejoint à moi pour cet épisode de Vivre avec. Donc là, c'est vivre avec des parents divorcés. Pourquoi toi, t'as souhaité parler de ce sujet au-delà de ta propre expérience? Est-ce que tu penses que du coup, c'est un sujet qui est important et il faut en parler?
Ouais, je pense que c'est un sujet qui est assez important pour un grand nombre de gens aujourd'hui. J'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de gens qui divorcent et beaucoup plus, du coup, je pense, de jeunes dans les familles qui sont touchées par ce sujet.
Et toi, t'avais quel âge quand tes parents se sont séparés?
Alors, ça s'est fait en 2016, donc j'avais 12 ans, à peu près.
À ce moment-là, autour de toi, est-ce qu'il y avait pas mal de tes potes, peut-être, qui avaient des parents séparés? Est-ce que c'est un truc que tu connaissais un peu par leur biais, ou pas du tout?
Alors, c'est quelque chose que je connaissais, mais pas de cette manière. C'est-à-dire que, en gros, bah, j'avais un pote qui avait des parents divorcés, mais qui ont divorcé... J'ai envie de dire à l'amiable. Les deux étaient d'accord pour divorcer.
Ok. Parce que du coup, comment ça s'est passé pour toi? Alors, sans du tout rentrer dans les détails du contexte de la séparation, c'est pas ça. C'est plus toi, comment tu l'as su, qui te l'a dit, comment tu l'as vécu, comment tu l'as perçu. Sur le moment même, pas tant après, mais ouais, sur la première année, par exemple.
Ouais, bah, je vais te contextualiser quand même déjà la chose sans trop rentrer dans les détails. Mais en gros, on était en vacances du coup avec la famille quelque part. Et il y a des amis à nous qui nous ont rejoints. Et en fait, on se retrouve à un repas un soir où il y a les deux familles, du coup, tu vois, réunies. Et à un moment, bah vient le moment de payer et ma mère et la fameuse fille décident d'aller au comptoir. À ce moment-là, moi, je suis avec mon frère et tous les autres enfants et tout. Et là, on voit ma mère, genre, s'effondrer en larmes, genre, dans le bar, tu vois, à l'intérieur. Tu vois, on se lève, on se taille direct sans dire au revoir et tout. Vraiment, on part, genre, ma mère hyper énervée. Et là, je regarde ma mère. Et j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ouais, rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est une phrase, tu vois, qui m'a beaucoup marqué. Et là, à ce moment, en fait, sur le coup, j'ai pas compris. Tu vois, sur le coup, je me suis pas rendu compte, en fait, de l'ampleur de la chose. Parce que tu vois, à 12 ans, t'assimiles pas trop ce que ça veut dire.
Oui,
tu vois,
t'as
trompé, ok. Quand j'ai commencé à voir mon père, du coup, partir, que j'ai commencé à faire les trajets entre mon père et ma mère, que j'ai vu ma mère souvent pleurer les soirs, que j'ai mon père même aussi être pas bien, etc. C'est vrai que la première année, j'ai envie de te dire, les 6 premiers mois, c'était encore du coup flou, mais après, ça a commencé à être compliqué. Ouais. Donc, des deux côtés, c'était assez, assez compliqué. Et en plus, ouais, il fallait gérer du coup le scolaire, le fait que tes deux parents étaient un peu bah, au fond du trou et qu'il fallait gérer ça. Et en plus, moi, j'avais le côté sportif... Parce que j'étais sportif de niveau à Genève, donc c'était la première année, c'était assez compliqué.
Ouais, parce que du coup, pour revenir sur le moment où on t'a plus ou moins dit que voilà, ouais, ça allait finir entre tes parents, ouais, c'est pas du tout le truc de bah viens, mon fils, on va s'asseoir sur le canapé, on va essayer d'expliquer la situation.
Ah, non, non.
T'es en vacances en famille, ouais, et il y a tout qui explose. Et ouais, c'est assez marquant ce que tu dis, le fait de que toi, t'es pas compris trop sur le moment. Directement, t'as fait l'intervalle entre chez ta mère, chez ton père ou...
Alors, au départ, j'allais plus chez mon père, donc au départ, j'en ai beaucoup voulu. Et ouais, les 3-4 premiers mois, je suis resté chez ma mère. Mais ça reste mon père. Ça reste mon père, je peux pas faire l'impasse là-dessus et me dire je vais plus jamais voir mon père. Et après, ouais, je suis allé chez mon père, mais quand j'étais chez ma mère, en fait, j'étais fermé. J'étais en mode, ouais, en fait, mon père, il est en voyage et il va revenir, en fait. Okay. Et j'ai été beaucoup de fois dans ma tête où ouais, c'est pas possible, c'est pas vrai, tu vois, enfin...
T'étais un peu dans le déni, tu penses?
Ouais, un peu. Je pense que les premiers mois, j'étais dans le déni, ouais. Parce que... Et c'est quand, je pense, la première fois que j'ai posé mes pieds dans l'appartement de mon père, du coup, dans un tout nouveau truc que je connaissais pas, qui n'est pas la maison de la famille, j'ai envie de te dire, que là, je me suis dit, ah, ok, d'accord. C'est okay. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé, quoi.
Ouais. Est-ce que t'avais le sentiment d'être dans la position où il fallait choisir, par exemple?
Eh bah, ouais, clairement. Ouais. Clairement, en fait, et c'est même pas une impression, c'est clairement ce que les deux, ils voulaient, en fait. Parce que, en fait, pour du coup, encore une fois, recontextualiser, moi, mon frère, après le bac, il allait faire... ses études sup à Genève en Suisse, dans une école hôtelière. Donc lui après il allait plus être dans la maison. Alors, lui il a fait une année, l'année la plus compliquée, parce que c'est là où mon père et ma mère où ils ont fait des tentatives de suicide, etc. Et après lui il est parti, il s'est trouvé une copine et il est resté à Genève en fait dans son appartement. Moi ça a été plus compliqué parce que du coup bah, j'avais 12-13 ans encore du coup à cette époque là et du coup je me suis retrouvé vraiment au milieu. Du coup, j'étais tout seul un peu, tu vois, dans ce truc. Parce que mon frère était parti, il était sorti du cocon, j'ai envie de dire. Et moi, j'étais resté, du coup, au milieu. Et vient après, du coup, la convention de divorce à faire, où là, du coup, il faut savoir qui veut quoi, qui prend quoi, etc. Et où moi aussi, je devais des fois témoigner sur certaines choses, sur qui méritait ça, etc. Et c'est vrai que pendant 2 bonnes années, ça a été assez compliqué, parce qu'en plus, ma mère a retrouvé quelqu'un avec qui c'était très compliqué au départ. Là ça va mieux, mais c'était vraiment compliqué. Et de l'autre côté, mon père a trouvé une fille aussi plus jeune avec qui c'était compliqué. Donc moi j'étais au final des deux côtés dans des situations compliquées avec les beaux-parents, et en plus au milieu où je devais faire certains choix pour éviter que d'un côté il y en ait un qui dise ah t'es avec ta mère, etc., et l'autre qu'il y en ait un qui dise ah t'es avec ton père.
Est-ce que t'avais quand même quelqu'un de ressource un peu, parce que là du coup t'as parlé de ton frère, du coup est-ce que c'était quand même quelqu'un d'important pour toi avec qui tu pouvais te confier, ou est-ce que même il y avait d'autres personnes, je sais pas si t'avais suivi, ou même je sais pas, quelqu'un dans ton entourage, ta famille, tes amis?
Ouais, alors il y a eu il y a eu mon frère, ça a été la base malgré tout, ça a été parce que c'est celui avec qui on a vécu la chose en fait, donc c'est celui qui est le plus proche, qui connaît le plus l'histoire, qui sait en fait ce que je ressens, parce oui, que il est dans la même situation que moi. Donc ça a été la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, que je suis allé le plus voir à Genève, que j'ai eu le plus au téléphone, etc. Après, il y a eu mon meilleur pote depuis que j'ai 5 ans, avec qui j'ai grandi et avec qui je suis encore aujourd'hui. Avec lui, ça a été bien aussi de se confier, mais différemment. C'est-à-dire que lui, quand je le voyais, je me confiais des fois. Puis c'était surtout aussi pour me vider un peu, tu vois, pour un peu
lâcher la pression, prise,
ouais. Être là. Et puis après il y a eu aussi mon ex-petite amie avec qui du coup ça a été aussi une aide, parce que du coup elle était aussi, des fois quand elle venait à la maison, elle vivait aussi un peu ce que je vivais, elle comprenait un peu plus. Mais c'est ces 3 personnes qui ont été importantes. Après j'avais pas envie non plus d'étaler ma vie à tout le monde, je préférais garder ça pour moi, gérer mes problèmes, j'ai envie de dire, de l'intérieur, et puis voilà quoi.
Mais c'est quand même important d'être entouré, surtout qu'en plus quand c'est de la part des parents, bah, on peut se sentir un peu désemparé, surtout à l'adolescence où du coup si ceux qui sont censés me protéger le plus sur cette terre ont du mal, ou si ça se passe mal, à qui je me confie, qui est-ce qu'elle a pour moi, donc c'est important quand même d'en parler. Alors ça t'a forcément impacté d'une manière ou d'une autre, tu vois, dans ton développement ou quoi, mais à quel point tu penses que ça t'a impacté, et à quel point tu penses que t'aurais été différent aujourd'hui si les choses avaient été aussi différentes dans le contexte familial?
Je pense que ça m'a impacté, ouais, mais plus tard. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai toujours été le même, j'ai pas changé. Et si, ouais, dans cette période d'adolescence où j'ai commencé à changer, j'ai senti, j'ai commencé à aller voir des psys, du coup, etc., à parler beaucoup. Et je pense que aujourd'hui, je fais, en ce qui concerne déjà l'amour, je suis très, vachement plus fermé qu'avant. Plus je grandis, plus je me dis, voilà, il va y avoir des trucs plus sérieux plus tard, et ça me fait peur en fait, parce que j'ai pas envie du coup de vivre ce que mes parents ont vécu, mais oui, et même que ce soit amicalement ou truc, j'ai plus de mal aujourd'hui à m'ouvrir et à aller vers les gens, j'ai plus peur, j'arrive un peu plus fermé et moins ouvert que comme j'étais avant.
Et du coup t'as dit que t'étais allé voir des psys, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as le sentiment que ça t'a aidé? Est-ce que déjà c'était de ta propre initiative, ou est-ce que ça a été poussé, je sais pas, par tes parents par exemple, ou Et est-ce que ça t'a aidé? Et si ça t'a pas aidé, pourquoi? Enfin,
alors, je suis allé voir une psy surtout pour mon sport, en fait. Dans le sens où, quand j'étais parce que je fais du hockey. J'ai fait du hockey à Genève en haut niveau. Et en fait, quand je jouais, depuis ce truc, j'avais une boule. J'étais pas bien, en fait, quand je jouais. J'avais beaucoup de problèmes de respiration. J'avais pas mal de... Dans ma tête, en fait, quand je jouais, de base, quand je joue, c'est pour me vider la tête, etc. Et là, j'y arrivais pas.
Genre, c'est quand je jouais, j'avais... En fait.
Ouais, c'est presque ça, ouais. Et donc, en fait, j'ai beaucoup... du coup, j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère est allée voir une psy. Et je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien aller prendre rendez-vous avec elle pour voir un peu ce qui se passe. Et en fait, cette fille, c'est une physiothérapeute, je crois que ça s'appelait. Et ouais, donc en fait, c'est une psy, mais qui, tu sais, agit, qui te fait faire des gestes, des grandes respirations, etc. Et qui agit sur ton corps un peu avec, tu sais, tes points d'énergie, les choses comme ça.
Okay.
Et c'est vrai que le premier rendez-vous, on a beaucoup parlé, et il n'y a pas eu trop de changements, mais ça m'a beaucoup aidé, du coup, pour mon sport. Et puis au final, même dans la vie de tous les jours, quand des fois, bah, du coup, cette histoire ressort, parce qu'aujourd'hui elle ressort encore, il y a encore quelques problèmes à régler. Mais c'est vrai que quand elle ressort, du coup, ces séances que j'ai eues, ces conseils qu'elle m'a donnés, bah, ça me permet aujourd'hui d'être plus calme, de pas m'énerver ou de me stresser pour rien, et au final d'être beaucoup plus lucide dans ce que je dois faire ou ce que je dois donner par rapport à avant.
Du coup, aujourd'hui, comment elle est un peu la relation déjà toi avec tes parents? T'as un peu le recul du coup de... Donc là, ça s'est passé il y a quoi, 8 ans, c'est ça?
Ouais, 8 ans.
T'as ce recul de ces 8 années-là, t'en auras encore plus après de recul, mais comment tu perçois cette situation? Comment ça se passe avec tes parents? J'espère que ça se passe mieux.
Ouais. Alors bah déjà, avec mon frère, on a toujours un peu du mal à s'y faire, j'ai envie de te dire, tu vois.
Ouais.
C'est bah moins qu'avant, parce que voilà, on en rigole plus aujourd'hui, mais c'est toujours un peu compliqué dans le sens où souvent quand on revoit quand on passe, parce qu'on passe souvent vers notre ancienne maison en fait. Et souvent quand on est avec mon frère et qu'on passe devant notre ancienne maison, on se dit ah putain, c'était cool ici quand on jouait au foot, on faisait des trucs comme ça. Bon, ça nous rappelle aussi nos trucs quand on était jeunes,
ouais,
avec
ouais,
mon frère,
ouais,
et qu'on s'amusait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours assez compliqué. Après, on s'est fait aussi à l'idée que nos parents, ils s'aiment plus, que voilà, ils ont refait leur vie. On est très contents du fait qu'ils aient chacun refait leur vie, qu'ils aient retrouvé quelqu'un qui soit heureux avec. Aujourd'hui, je le vis plutôt bien, dans le sens où bah maintenant, ma mère, elle a déménagé dans le sud. Elle vit avec son copain, elle a une maison, elle a retrouvé un travail, elle a retrouvé en fait cet équilibre. Donc c'est assez cool pour elle. Moi je suis content personnellement pour elle. Mon père, pareil, il a retrouvé un équilibre, il a refait un enfant, un petit un demi-frère pour moi, mais que je considère comme mon petit frère, qui a maintenant 3 ans, et avec qui ça se passe super bien. Et moi qui ai toujours rêvé d'être grand frère, au final c'est une opportunité,
c'est cool,
tu vois. Donc voilà, ça s'est aussi apaisé de son côté depuis que le divorce est fini, en fait. Depuis qu'ils ont signé la convention, chacun a vraiment fini de se parler, ils ont tous les deux coupé les ponts, et ça va beaucoup mieux.
Et ça va, ça t'impacte pas trop le fait que tes parents du coup n'aient plus du tout contact? Enfin, d'un côté c'est entre guillemets mieux, dans le sens où si c'était super compliqué et qu'il n'y avait que de la souffrance des deux côtés quand ils étaient en contact, oui c'est sûrement mieux. Mais est-ce que toi, ton côté...
Bah,
tu t'es habitué à cette situation?
Ouais, je me suis habitué, dans le sens où en fait quand ils se parlaient, ils s'insultaient.
Ouais, donc vaut mieux que...
Et donc je préfère... Avant, j'aimais pas avoir ce rôle de, par exemple, si mon père il avait quelque chose à dire à ma mère, il passait par moi.
Ouais, t'étais le médiateur, quoi.
Au départ, j'étais ça. Et j'aimais pas, parce que c'était vraiment les moments très compliqués où du coup je vais dire des mots durs, des mots forts, tu vois, à chacun de mes parents.
Puis c'est pas ton rôle en plus.
Voilà, c'était clairement pas mon rôle. Mais aujourd'hui, vu que c'est apaisé, que c'est pas des trucs méchants, c'est vraiment des trucs plutôt pratiques,
ouais,
des choses qui sont un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus pratique, et moi ça me dérange pas du coup au final. Je préfère limite faire le médiateur entre les deux, plutôt qu'ils se parlent et que des fois ils se lâchent des insultes.
Ouais.
Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que ma mère a un peu plus de rancœur envers mon père, ce qui est normal. Mais mon père, il en a plus du tout envers ma mère. Même mon père, à un moment, tu vois, avec le divorce et ce qu'elle demandait, etc., il commençait vraiment à être énervé contre elle parce qu'il trouvait qu'elle exagérait et tout. Enfin bref, là, on parle encore dans des détails. Mais aujourd'hui, mon père est hyper apaisé et n'en veut pas à ma mère et ni rien. Et ma mère n'en veut pas aussi à mon père, mais elle a toujours un peu cette rancœur, tu vois, qui fait que voilà.
Ouais.
Sinon, non, ça va, les relations vont bien, et puis voilà.
tant mieux.
Ouais.
Le problème, c'est pas que les parents se séparent et qu'ils refassent leur vie. Parce qu'en soi, on veut le meilleur pour eux. Et s'ils sont heureux et plus épanouis comme ça, voilà, c'est mieux d'entretenir des relations saines ou pas de relations du tout, mais plutôt qu'une relation super toxique et difficile et qui a des répercussions. Donc, c'est pas le problème de se séparer et de se refaire sa vie. C'est plus tout le contexte autour, en fait, comment les choses ont été faites, comment les choses ont été dites. Et ouais, c'est plus ça, t'es d'accord
Tout a été, comme je te disais au début, en fait, un divorce à l'amiable, il peut très bien se passer, il peut y avoir aucun problème, mais au final, les parents peuvent rester en contact et super bien parler.
Il y a un truc qui revient assez souvent de la bouche et de l'esprit des enfants quand les parents se séparent, c'est la culpabilité. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'enfants qui disent aussi, ça se trouve, c'est de ma faute. Toi, je sais pas si dans ce contexte-là, c'était le cas, mais en tout cas, si tu l'as mal vécu, quel conseil tu pourrais te donner ou même donner à un ado aussi qui passe par un contexte familial hyper compliqué, ce que t'aurais aimé savoir peut-être avec le recul que t'as aujourd'hui?
Le seul conseil que je pourrais me donner pour éviter de vivre ça, ce serait, enfin, vivre ça, t'es obligé de vivre, mais ce serait de moins m'en mêler encore. Sincèrement, je trouve que je m'en suis encore un peu trop, j'ai encore trop mis mon nez dans l'affaire, et je pense que ça a aussi eu des répercussions, mais ouais, vraiment, si on vient me parler ou me poser des questions de n'importe quel bord, c'est pas mes affaires, je me mets de côté et je m'en, limite quitte à m'enfermer, tu vois, juste dans moi-même. Et pendant le divorce, j'ai beaucoup du coup menti, beaucoup fait de choses comme ça pour essayer au final en fait de plaire à tous, et ça a vraiment pas marché parce qu'au final ça s'est su de partout, j'en ai pris encore plus que de base. Le conseil que je peux me donner, c'est pas m'en mêler, faire ma vie de mon côté, me construire, prendre de chaque côté, mais pas s'en mêler et garder ces histoires qui ne sont pas les tiennes de côté, quoi.
Ouais. Oui, que la séparation reste entre les deux concernés, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Joris d'être venu, de t'être confié. C'est vraiment très gentil, je te souhaite plein de bonnes choses.
Merci.
Et encore merci.
Bonjour Madame Costa.
Bonjour.
Déjà merci d'être présente aujourd'hui. Avant de rentrer un peu dans le sujet, vous êtes coach parental. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, j'ai été 27 ans enseignante avant de devenir coach pour les parents, les familles. J'accompagne en ligne, donc c'est des visios que je fais. Et j'accompagne les parents sur toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le biais de l'éducation avec les enfants et les adolescents. J'ai eu une formation à la Sorbonne, un DU psychopathologie des ados difficiles. Donc, je peux aussi accompagner des familles avec des adolescents et des adolescences difficiles.
D'accord. Et est-ce que vous rencontrez aussi des parents qui peut-être vous sollicitent parce que justement il y a cette difficulté-là autour de la séparation et que l'enfant ou l'adolescent peut souffrir justement de ce contexte?
Alors ça, c'est un fait de société. On voit bien que le nombre de séparations, il a augmenté au fur et à mesure des années et que c'est un fait. Alors il y a plein de familles aujourd'hui, des familles qui sont maman seule avec les enfants, parfois papa seul avec les enfants, parfois recomposées, décomposées, recomposées. Enfin bref, on a tous les cas de figure dans la famille. Des fois, les parents me contactent même avant de savoir s'ils divorcent ou pas, ou ils se séparent.
Ah oui, okay.
C'est-à-dire qu'ils se disent est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on fait le bon choix? Comment on va l'annoncer aux enfants? Donc, la première chose à se dire, c'est est-ce que vous êtes sûr de votre décision? Parce que le meilleur moment, il n'y en a jamais pour annoncer ça aux enfants. Par contre, il faut que le parent, il sache qu'il soit vraiment sûr. Voilà. Et puis après, les parents, ils peuvent me contacter pour les accompagner au moment de la séparation, donc pour l'annonce au moment de la séparation, et puis reconstruire l'après. C'est-à-dire comment je peux, avec mes enfants, en famille monoparentale, les élever, retrouver un cadre de vie harmonieux, des règles de vie harmonieuses, et que ça soit peut-être moins douloureux pour les enfants aussi.
Est-ce que vous échangez avec ces enfants-là aussi ?
Rarement, parce que moi, je suis coach parentale, donc je vois plus les parents. Je redonne aux parents les clés pour pouvoir mieux gérer les enfants à la maison.
Okay.
Voilà. Mais de temps en temps, oui, je vais aussi voir certains enfants, mais c'est plus rare.
Et dans ces rares fois, ou même peut-être à travers le discours des parents, quelles sont les choses qui reviennent assez, qui illustrent la souffrance et le mal-être de ces enfants qui sont dans un contexte familial qui est compliqué, où les parents sont séparés et où c'est difficile?
Alors, c'est dur de faire une généralité parce que chaque famille est unique et chaque famille a ses problématiques. J'allais dire que c'est plus en fonction des âges des enfants. Moins de 4 ans, les enfants ne réalisent pas vraiment. Après 4 ans, dans cette enfance-là, ce qui est difficile pour les enfants, c'est justement de faire leur sac et de passer d'une maison à l'autre, de ne pas avoir tout le temps la même maison, de ne pas avoir tout le temps les mêmes règles de vie, de ne pas avoir tout le temps le même petit lieu qui pourrait s'être fait douiller d'une chambre. Alors, avec certains enfants, ça se passe très bien. Ils sont très contents d'aller chez l'un et l'autre, mais ça peut être une des difficultés. Et vers 5 ans, les enfants ont une peur, souvent c'est la peur de l'abandon, qui se caractérise chez tous les enfants par des cauchemars, difficulté à aller se coucher, etc. le soir. Et quand un enfant a vécu une séparation entre ses parents, sa grande préoccupation, c'est « Et moi, est-ce qu'ils vont m'abandonner, moi aussi ? Est-ce qu'un jour, moi aussi... voilà. » Et là, il va falloir rassurer, dire que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est plus grand que l'amour peut-être d'un couple. Après, avec l'adolescence, ça peut être aussi compliqué quand on se sépare et qu'on a des adolescents, parce que l'adolescent, il est en plein changement physique et moral, psychologique, hormonal, etc. Donc déjà, lui, tout foucan, entre guillemets, chez lui. Et en plus, à la maison, c'est aussi sable mouvant et c'est aussi compliqué entre les parents. Donc on pense des fois que quand ils sont grands, c'est plus facile, mais pas forcément. Vraiment, la séparation chez un adolescent, ça peut aussi remettre en question. Tout est instable. Lui, déjà biologiquement parlant, et il grandit, et en plus à la maison c'est instable. Alors ce que je préconise pour les ados, c'est plus, il choisit avec les parents la majeure partie des lieux de garde, etc. Et quand il est impliqué dans la séparation, ça matche mieux, ça marche mieux.
Vu qu'il est plus grand et qu'on peut dire il est plus à même à comprendre la situation, est-ce que vous pensez pas que justement ils peuvent aussi être plus impliqués dans la séparation, mais qui de base en fait concerne seulement les deux parents, mais évidemment vu que les enfants sont en première ligne, il y a cet effet de l'enfant va faire l'arbitre entre les deux et aussi souffrir de cette situation-là justement.
Ça c'est dans tous les parents qui ont des adolescents, quand ils les voient grandir et vous dépasser physiquement, ils ont l'impression que les adolescents ont la maturité, le discernement, l'autonomie d'un adulte. Or non, le cerveau d'un adolescent, il n'est pas mature avant 25 ans. Donc en fait, on ne peut pas demander une responsabilité à un petit loulou de 13, 14, 15 ans comme d'un enfant de 25 ans ou un pré-adulte ou adulte. Donc il faut, c'est pas parce qu'il est plus grand que vous, qu'il a des signes d'opposition, qu'il veut déjà son scooter ou voilà des signes d'autonomie, qu'il a cette maturité-là. Donc déjà oui, en effet, c'est pas votre confident, c'est pas votre juge, c'est pas votre messager, mais même chez les enfants plus petits, parfois on le trouve parce que en cas de séparation, les enfants prennent beaucoup de, c'est une souffrance hein, pour eux. Donc, il y a une maturité qui s'installe plus vite. Donc, même un enfant de 7, 8, 9, 10 ans peut avoir des fois cette responsabilité de messager. Et moi, je dis, c'est les enfants de ping-pong, en fait. Ils sont la balle entre les deux parents. Surtout quand les deux parents ne peuvent pas communiquer, c'est la plus mauvaise idée qui soit. C'est de demander à l'enfant de faire le messager entre les deux parents. Et puis, l'enfant, il n'a pas envie d'avoir de conflit d'intérêt. Lui, il aime ses deux parents.
J'évoque au début du podcast une étude qui parle d'effets sur la santé mentale des jeunes quand les parents se séparent et que c'est un contexte qui est compliqué, qui est difficile. Ça aurait des conséquences sur la santé mentale, sur le long terme, plus de risques de dépression, d'anxiété, de problèmes de concentration à l'école, des choses comme ça, et aussi des problèmes relationnels qui continuent dans le futur, peut-être avec aussi des relations amoureuses.
En effet, qu'il y ait des répercussions sur des syndromes dépressifs ou de la tristesse ou une baisse des résultats scolaires ou un enfant qui s'isole dans la cour de récréation ou à l'inverse, qui pourrait devenir agressif. Qui va montrer des signes d'opposition, qui va montrer... Ça, c'est tous des signes de souffrance, en fait. De souffrance physique et de souffrance... Après, il y a des enfants qui vont plus loin. Hein. Il y a des enfants qui peuvent s'automutiler, qui peuvent se taper la tête contre les murs, qui peuvent se faire mal parce que la douleur psychologique est trop importante. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment observer les enfants, il faut les accompagner et surtout les faire suivre médicalement. Sauf si un des deux parents est déchu de ses droits parentaux, normalement, vous avez tous les deux ont l'autorité parentale sur les enfants. Donc, dans ce cas-là, c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils sont exempts de cette autorité parentale. Mmh. Donc, dans ces cas-là, il faut créer quelque chose qui va permettre aux parents quand même de s'entendre sur l'éducation, la santé, l'avenir de l'enfant. Donc, après, pour réduire les tensions, il vaut mieux que chacun ait son matériel, ses affaires scolaires, chacun peut-être des fois même dans chaque maison, les affaires, les vêtements aussi. Donc, faut réduire le maximum les tensions sur du matériel. Et ensuite, on essaye de communiquer sur des choses qui sont vraiment essentielles.
Je trouve ça intéressant et assez important ce que vous avez dit sur le fait que, en fait, quand on dit le mot parent, famille, on imagine les parents avec les enfants, quelque chose d'uni. Mais en fait, ce n'est pas parce que les parents se séparent qu'ils ne sont plus conjoints ou compagnons, mari, femme, peu importe, qu'ils ne sont plus parents, que ce n'est plus une famille. Et ces rôles-là restent, en fait, finalement, même si c'est fait dans un contexte différent, c'est juste une adaptation, une grosse adaptation. Quels sont vos conseils pour résoudre un conflit, pour essayer de remettre en place une relation entre un parent et un enfant quand on est dans un contexte assez similaire à celui-là?
Ah, il y a plein de choses dans le conflit, vous avez tout ça est vrai. Il y a des choses aussi, parfois, certains parents me disent, mais moi, quand je vois mon fils, il me fait tellement penser à mon ex, c'est terrible. Mmh. Donc, on a des fois des transferts aussi psychologiques. C'est très dur de voir que ce qu'on reprochait à son ex, finalement, on le retrouve parce qu'il y a toujours des traits de caractère, parce qu'il y a toujours des choses qui sont dans l'hérédité. Donc, il faut déjà que chaque parent se dise inconsciemment qu'est-ce qui se joue. Ensuite, il y a des enfants qui n'acceptent pas la séparation. L'enfant, il n'a pas demandé ça. Donc, très souvent, dans son inconscient, il rêve que ses parents se remettent ensemble. Donc, il faut écouter la tristesse, écouter ses doutes, écouter des fois ses espoirs ou ses faux espoirs que les enfants ont. Je me souviens d'une petite fille de 8 ans qui avait dit « Oui, pourquoi tu ne te remets pas avec papa, maman ?» Et sa maman lui avait dit, tu sais, des fois, on ne peut plus se remettre avec la personne parce que c'est trop compliqué. Et alors la petite fille lui a dit, mais maman, quand je me fâche avec mes copines à l'école, tu me dis toujours de dire pardon et toi, tu ne le fais pas. Tu ne te réconcilies pas, toi, avec papa. Du coup, ça veut dire quoi? Il y a tellement de situations. Ce matin, j'avais une petite fille avec sa maman. Elle me disait, je ne veux pas aller chez papa la semaine prochaine. Et je lui dis, mais pourquoi? Et la maman me dit, en fait, on est divorcés depuis longtemps et c'est la première fois, la petite fille avait 8 ans, c'est la première fois que le papa la prenait en vacances. Et elle avait peur. Mmh. Parce qu'elle allait chez quelqu'un qu'elle connaissait pas. Et le papa était peut-être super bienveillant, il voulait peut-être juste prendre ses enfants pour la première fois, pour plein de raisons, il pouvait pas avant. Mmh. Mais cette petite fille de 8 ans, elle était tétanisée, quoi. Et elle était tétanisée au point de ne pas pouvoir jouer avec les autres ce matin. À des jeux d'enfants dans une colo, c'était trop compliqué parce qu'elle se projetait déjà la semaine prochaine et elle n'arrivait pas à se dire j'ai pas envie d'aller chez papa. Mmh. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Donc dans tous les cas, si l'enfant est en colère, si l'enfant est énervé, si l'enfant vous dit que vous êtes le parent le plus nul parce que vous n'avez pas su être ensemble, parce que les parents, les enfants, même les ados peuvent des fois se fâcher sur leurs parents là-dessus. Mmh. Donc déjà, c'est se dire c'est mon enfant qui va mal, c'est pas moi. C'est la souffrance de mon enfant, ce qu'il est en train de me dire, même si c'est une insulte, je ne le prends pas pour argent comptant. Je l'écoute comme si c'était quelqu'un qui ne va pas bien. Donc on s'assoit à côté, on lui dit, écoute, si tu me dis ça, c'est que tu n'es pas bien. Donc viens, on en parle. Et passe, essayer de lui dire, mais non, je ne suis pas comme ça. Mais non, parle mieux à ta mère. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je te garde tout le temps et moi, je me saigne pour toi tous les jours. Combien de fois on a tendance à se justifier?
Oui, c'est ça,
se justifier. Alors que nous, l'enfant, quand il exprime tout ça, c'est qu'à ce moment-là, il est en souffrance, il est en colère, il est en tristesse, il est en pleine panique émotionnelle. Donc, on prend sa souffrance, mais on ne se la prend pas pour nous. C'est-à-dire qu'on l'accueille et on l'aide à la gérer sans répondre à ses accusations. Et ça, c'est le meilleur moyen de commencer à recréer du lien. Ensuite, il faut essayer de retrouver des temps de qualité. Quand il y a trop de conflits, il n'y a plus de communication. Quand il n'y a plus de communication, on n'ose plus aller vers son enfant et son ado. Chacun se mure dans sa chambre. Donc, dire à son ado, tous les jours, je me déconnecte de mon téléphone, de mes écrans, de ma vie de famille. Je me connecte à toi. Tous les jours, 10 minutes, je viens dans ta chambre et tu me parles de ce que tu veux. Et je t'écoute. L'écoute, c'est pas donner des conseils. L'écoute, c'est pas ramener à soi. L'écoute, c'est pas donner une solution. C'est juste, je t'écoute. Ils ont juste besoin de ça. Et quand on prend 10 minutes pour écouter l'enfant, on recrée la communication. Et tous les jours, ces 10 minutes-là. Alors, faut pas baisser les bras. Hein. J'ai une maman aussi qui l'a fait pendant 21 jours avec une ado qui avait un baladeur sur les oreilles qui voulait pas l'écouter. Et au bout de 21 jours, la petite a enlevé son écouteur et lui dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et la maman lui a dit « Bah écoute, je suis là, je te donne du temps pour toi. Et depuis 21 jours, tous les jours, je viens dans ta chambre 10 minutes m'asseoir sur le siège de ton bureau et j'écoute ton silence. » Et à ce moment-là, la petite, elle a pu fondre en larmes et dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et c'est ça, créer du lien. Quand il y a eu un conflit, c'est l'adulte qui doit revenir vers l'enfant. C'est l'adulte qui doit aller et se reconnecter à lui. Mais pour ça, faut se déconnecter de notre société, de nos mails, de notre ordinateur, de nos préoccupations. Et il faut aller 10 minutes par jour avec chaque enfant de manière exclusive. Et voilà. Mais toujours se dire tous les jours, dire à son enfant qu'on les aime.
C'est très intéressant et c'est très fort en plus les exemples que vous avez donnés. C'est très positif comme fin. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à Joris. Merci à Marie Costa, coach parentale. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Vivre avec.